Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
À demain. Alors Vincent, ben le bilan, Paul me demandait la question, le portrait général. Moi, je trouve quand même qu'au Québec, le portrait général s'est beaucoup amélioré en 10 jours. C'est-à-dire autant la courbe des cas que le fait qu'on a quand même fait des grosses journées de vaccination, dont hier. Quand tu mets ça, tu te dis la course vaccin variant, on avait l'impression qu'il était perdu. Sorcière, là, tu sais, je trouve, oui. Depuis en 10 jours. Là.
Oui, là, on combat plus fort et surtout, il n'y a pas de région où on a perdu le contrôle. Les régions les plus touchées, évidemment, qui sont encore en rouge foncé, sont encore inquiétantes, mais ça baisse dans pratiquement toutes ces régions-là. Aujourd'hui, 1248 nouveaux cas. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on était autour de 1600, même un peu plus. Et ça se poursuit là, ça s'est stabilisé cette semaine. 7 décès, moins 5 personnes hospitalisées, moins 4 personnes aux soins intensifs, c'est aussi de bonnes nouvelles par rapport aux hospitalisations. Évidemment, la grosse bonne nouvelle aujourd'hui, c'est le nombre de doses de vaccins, 85 000 doses.
Tu sais qu'il y a des gens de mon âge qui ont, ce matin, qui identifiaient ça sur les réseaux sociaux à la génération X.
Ah, c'est... Donc, vous avez gagné.
Il y a toutes sortes de thèmes. Tu sais que la génération X, c'est une génération pas... T'sais, qui a jamais eu l'ambition de changer le monde. D'abord, qui est arrivé sur le marché du travail, il n'y en avait pas de job. Comme tout le monde a commencé, t'avais un bac en quelque chose, mais...
Ah oui, les gros jobs étaient pris.
Non, les gros jobs étaient pris. C'est que tu commençais avec 2-3 petits jobs, mais bien pratico-pratique, tu sais, à se débrouillard. Fait quand ils ont ouvert les vaccins,
ça y va par là.
Ça s'est présenté.
Ben, tout à fait. D'ailleurs, on dit hier, les AstraZeneca, là, donc, de cette nouvelle tranche d'âge qui pouvait y accéder, c'est 30 000, là, hier, vaccins. Alors, d'ailleurs, t'as fait partie de la journée la plus, la journée
ben
record.
Oui. Oui. J'ai contribué au record.
Et on disait hier, je vous disais 100 000 rendez-vous, on était à 103 000 finalement hier après quelques heures seulement sur Clic Santé. Et c'est quand même 11 000 vaccinateurs qui travaillent en ce moment à la grandeur du Québec. 11 000. Alors c'est un chiffre impressionnant de toute l'équipe qui est prête. La fameuse machine là, décrite par Christian Dubé est rendue là, il faut l'alimenter avec des vaccins. Il y en avait beaucoup hier, il devrait y en avoir encore beaucoup aujourd'hui. Alors probablement que le chiffre sera important aussi.
Par contre, on a appris que la prochaine livraison d'AstraZeneca de l'Inde, on l'oublie là.
Oui, là quand même peut-être faire une parenthèse là-dessus parce que c'était une moins bonne nouvelle. L'AstraZeneca qui provenait de l'Inde, le COVID Shield là, qu'on a reçu quand même en quantité. Le major général Danny Fortin qui confirmait le 1,5 million qui était attendu en provenance de l'Inde. Ce mois-ci, on ne l'aura pas. Faut dire qu'ils ont une bonne raison. Là. En Inde, on a complètement perdu le contrôle.
Sur Twitter, j'ai commenté ça avec un proverbe bien connu. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et
l'Inde l'avait vraiment pas fait beaucoup comparé, par exemple, aux États-Unis. Eux, au début, ont déjà pas gardé toute leur dose en Inde. On exportait même de l'oxygène. On a doublé les exportations d'oxygène alors qu'au pays, on en manque. Là. Les hôpitaux manquent d'oxygène pour leurs propres patients.
Probablement que le premier ministre de l'Inde, il y a des gens dans son propre pays qui posent des questions, disant, nous autres, on est bien fins, on est bien généreux. Là, on sort des vaccins par bateau puis par avion. Et on peut-tu s'en garder?
Oui, d'ailleurs, en Inde, aujourd'hui, c'est un nouveau record. Là. Tous les jours, c'est la même nouvelle, mais là, c'est 332 000 nouveaux cas, 2250 morts. Alors, c'est ce qui fait qu'on coupe les vivres à l'international. On dit, par contre, être en discussion avec le Serum Institute, là, qui est le plus grand fabricant de vaccins au monde, qui s'engage encore à les livrer sur 1,5 million de doses. Par contre, quand, là, ça, on n'a pas de réponse. On sait qu'on est quand même en Inde, là, on va être dans le trouble pour un bon bout de temps, vu qu'on ne voit pas un plateau du tout arriver, du moins à court terme. Alors, c'est des délais qui s'ajoutent quand même au délai de Moderna aussi. Heureusement, Pfizer, là-dessus, il y a des arrivages quand même impressionnants qui vont sauver la mise un peu pour la vaccination au Canada et au Québec.
Tu sais, Vincent, que je suis jamais méchant, mais quelqu'un sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui m'a écrit une question là-dessus. Là, comment ça se fait qu'un pays aussi grand producteur de vaccins que l'Inde, là, le pays du monde, avait laissé sur son territoire se développer un variant là, qui pourrait être résistant à son propre vaccin?
Ouais, il sait pas trop comment ça marche.
C'est parce que le variant...
Surveille pas le variant avec un fusil anti-variant. Là.
Le variant, il
peut apparaître.
Il se fait tout seul, là.
Oui, oui.
Fait qu'il aurait pu se faire dans le pays voisin, mais c'est pas parce que t'as des usines puis que tu produis des vaccins qu'un variant peut pas apparaître dans le même pays, là.
Non.
D'un milliard d'habitants, soit de plus d'un milliard d'habitants.
Non, il peut y arriver un variant chez nous, dans votre quartier, là, qui va être le variant qui va.
Il peut avoir un variant.
Le variant qui va prendre le contrôle à la grandeur de la planète, là. C'est une loterie, là, carrément. Te dire, donc, je t'ai donné les chiffres, 1248 nouveaux cas par région, capitale nationale 150. C'est encore élevé, mais c'est plus bas que la semaine dernière. Montréal, 307, toujours assez stable, même en légère baisse par rapport à la semaine dernière. L'Outaouais, 135, c'est élevé, mais plus bas. C'est-à-dire Appalaches, 171. C'est peut-être
ça
la région
élevé, ouais.
Où vraiment c'est plus difficile. Comme la Montérégie, qui reste aussi stable, mais très haut, là, à 144. Tandis que le reste du Grand Montréal, Laval, 77, Lanaudière, 38, Laurentide, 45, c'est quand même de relatifs bons bilans en ce moment. C'est d'ailleurs ce que disait François Legault plus tôt ce matin, qu'il était encouragé. Évidemment, il rappelait que ça ne veut pas dire que dans quelques jours, ça ne peut pas repartir à la hausse, mais c'est quand même un exploit même que le Québec ait réussi à casser cette courbe aussi rapidement.
Donc, faisons le point un peu plus précis là, sur la vaccination des malades chroniques. Donc, les gens peuvent prendre un rendez-vous dès demain.
Oui, et c'était, évidemment, très attendu. Le gouvernement a rendu disponible une liste là, donc de maladies chroniques. Et on y va vraiment, vous en parliez un peu, je vais te le faire entendre d'ailleurs Christian Dubé là-dessus, mais on y va un peu sur le jugement de tous et chacun, parce que la liste des maladies est quand même longue, et il y a des maladies aussi, des gens qui ont des maladies rares, auto-immunes, que la médecine n'a pas encore nécessairement identifiées, donc ça se peut qu'il y ait des gens qui se retrouvent plus ou moins dans cette liste-là, mais qui ont des problèmes de santé, et qui leur médecin leur a dit, mais la COVID, c'est très dangereux pour toi, reste par exemple en télétravail à cause de ta condition de santé, mais ces gens-là, Monsieur Dubé le disait, le ministre de la Santé, n'hésitez pas, allez vous faire vacciner. Et ça ira donc un peu sur l'honneur. On demande aux Québécois de respecter la priorité pour les gens malades. On ne veut pas non plus jouer à la police dans les centres de vaccination. Je vous fais entendre Christian Dubé là-dessus.
On ne veut pas que les personnes qui sont sur place dans nos centres de vaccination viennent jouer à la police. Si vous êtes dans une situation qui, selon vous, vous êtes un malade chronique et qu'une de ces maladies que vous voyez vous cause un préjudice, moi, ce que je voudrais, c'est vous dire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On se fie sur la bonne foi, non seulement de ceux qui ont ces maladies chroniques-là, mais on se fie aussi sur les Québécois qui ne font pas partie de ces groupes, d'attendre encore un peu. Et on parle pas ici de mois, on parle ici de quelques semaines.
Parce qu'évidemment, là-dedans, il y a des conditions quand même qui sont assez communes. Diabète, hypertension, obésité. Si vous avez une poignée d'amour, là, vous ne devez pas aller vous faire vacciner. Là. Alors, on parle de conditions quand même plus sérieuses. Et dès le 28 avril prochain, ça, plusieurs seront très soulagés de l'apprendre. Toute personne présentant une incapacité motrice, intellectuelle, trouble de la parole, du langage, trouble visuel, auditif, associé à d'autres sens ou lié à un trouble du spectre de l'autisme pourront se faire vacciner, pourront en fait prendre rendez-vous dès le 28 sur québec.ca/vaccin-COVID. Les aidants naturels également qui pourront se faire vacciner. Donc, on touche quand même à quelques centaines de milliers de Québécois qui auront accès maintenant au vaccin. Et pourquoi, quand même justifier aussi, pourquoi c'était si compliqué la première vague là, de maladies chroniques? Tout simplement parce qu'on n'avait pas assez de doses. Là. Alors, n'ayant pas assez de doses pour toutes les maladies chroniques, on est allé vraiment avec le prioritaire, là, ceux qui ont un suivi à l'hôpital. Et là, maintenant que les vaccins arrivent, on peut élargir. Alors, ça commencera demain pour les rendez-vous. À mon avis, il y aura beaucoup de gens en ligne, Mario, pour Clic Santé à partir de 8h demain matin.
J'ai vraiment l'impression, oui. Le premier ministre ontarien, Doug Ford, qui a fait son premier point de presse en une semaine, en isolement parce que il a été en contact avec un de ses employés qui est positif de la COVID. Mais là, c'est un point de presse assez spécial. On dit généralement, en temps de crise, c'est important pour les leaders de se montrer fort. C'est pas ce qui s'est produit.
Non, Monsieur Ford, le premier ministre ontarien, qui était très ébranlé aujourd'hui à son point de presse. Faut dire, le bilan aujourd'hui en Ontario, 3682 nouveaux cas. C'est un peu en baisse. Ça peut être encourageant. 40 morts, par contre. Le bilan des morts qui augmentent au fil des jours. Les hospitalisations aussi qui montaient encore aujourd'hui. Mais Monsieur Ford avait des excuses à faire aux Ontariens. Pas pour ces chiffres-là, mais pour des mesures qu'il qualifie de trop, annoncées trop rapidement, mais des erreurs. Entre autres parce qu'on a dû, en Ontario, reculer sur certaines mesures qui ont été annoncées dans, faut dire, l'urgence, là, évidemment, du nombre de cas en Ontario. Entre autres, le fait qu'on ferme des installations de jeux dans les parcs pour les enfants.
C'est surtout ça, là.
Ça n'a pas passé.
Mais ça n'a pas passé nulle part. C'est que les gens qui trouvent ça dur, les mesures, trouvaient que c'était une privation de liberté démesurée. Mais même les experts en santé publique, plusieurs disaient, ouais, mais là... on veut pas confiner les gens nécessairement à l'intérieur ou les forcer à rester à l'intérieur ou aller dehors, c'est bon là.
Surtout que là maintenant le toucher semble beaucoup moins un problème.
Exactement.
C'est sûr que si tu joues plein d'enfants ensemble, à l'extérieur ça semble quand même moins un problème, on le découvre de plus en plus.
Donc ça a été vu comme une espèce de geste vraiment erroné là.
Tout comme les policiers qui avaient accès à arrêter, à faire des interpellations pour n'importe quelle raison. Là. Et ça, ça passait pas même chez les policiers qui disaient qu'ils voulaient pas faire ça eux-mêmes. De sorte que le gouvernement ontarien a reculé en moins de 24 heures là-dessus. Ça amène Doug Ford à faire des excuses. Et vous allez entendre dans l'extrait les excuses de un. Et ensuite, j'ai mis un petit bout parce qu'il a été très ému plus tard, au point où il a eu de la difficulté à terminer sa conférence de presse. Il s'est arrêté à plusieurs reprises pour prendre de l'eau, ravaler ses larmes, alors qu'il parlait de la situation en Ontario, des histoires terribles qu'il entend, évidemment, de familles déchirées par les différents drames là, qui se multiplient en Ontario. Alors, je vous fais entendre ces deux extraits.
We move fast to put in measures in place to reduce mobility. But we move too fast. And I know that some of those measures, especially around enforcement, they went too far. Simply put, we got it wrong. We made a mistake. The stories that could make you cry, families that haven't been able to hold hand. Hold on, folks. I apologize.
Alors, il a dû s'arrêter comme ça à plusieurs reprises, alors qu'il parlait des histoires des familles, évidemment, qui sont privées de leurs proches malades. Et ce qu'il disait au début, là, nous sommes allés trop vite, nous nous sommes trompés, nous avons fait une erreur. Ces décisions ont laissé beaucoup de gens inquiets, en colère, bouleversés. Je suis désolé, je m'excuse sincèrement. Alors, c'est quand même rare qu'on voit ce genre de mea culpa au
niveau
politique.
Mais ça, moi, j'ai pas de problème à s'excuser ou à, tu sais, François Legault l'a fait ajuster une mesure, là, tu sais, mais là, il y a deux problèmes. D'abord, le délai. Tout ça s'est passé vendredi. Là, il est plusieurs jours sans sortir publiquement, réapparaît jeudi, et mettons, OK, là, on parle de mesures qui ont déplu, de politique, mais mettons qu'on parlait des opérations, là, de la présentement, là, t'as des salles de soins intensifs qui débordent, des patients doivent être déménagés d'une région à l'autre.
Ouais, les modules de jeu dans les parcs, ça m'apparaît pas le plus grand drame en Ontario en ce moment.
Présentement. Mais là, tu dis, mettons que tout ça, là, qui donne des ordres au ministre de la Santé? Qui débloque les budgets nécessaires? S'il y a une espèce de gestion de crise où tu veux voir vraiment le premier ministre aux commandes, dans tour de contrôle,
confiant.
Confiant, puis, tu sais, comme on dit en québécois, qui colle des shots, là. Tu sais, qui pose les bons gestes, tu sais, qui... Là, t'as vraiment l'impression de quelqu'un qui est déboussolé, parce que là, il a fait de la peine à sa population, il les a choqués, il s'inquiète de ce qu'il va avoir comme répercussion d'un sondage, mais... aucunement en contrôle de la situation, là. Aucunement en maîtrise sur le fond des choses, là, des actions, des gestes qui doivent être posés pour le bien-être de la collectivité. L'exemple ultime là, qu'on donne au Québec, qu'on enseigne au Québec, c'est les conférences de presse quotidiennes de Lucien Bouchard et André Caillé.
Oui.
Puis à certains moments, ils faisaient des conférences de presse alors que dans la journée, les pylônes
s'effondraient.
Les pylônes s'effondraient sous le verglas. Là. Mais... t'avais le président d'Hydro-Québec, t'avais le premier ministre du Québec qui avait l'air vraiment en bon contrôle de la situation, en parfait contrôle de la situation. Tenait un propos rassurant, était calme, mentait pas. Là, des fois, il disait que la situation était compliquée puis que la solution, on sait pas combien de jours elle prendrait puis tout ça. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui de Doug Ford, à mon avis, c'est la leçon inverse. Là. C'est un premier ministre qui avait vraiment, vraiment l'air dépassé par les événements. Pas à peu près.
Ça donne quand même des munitions aussi à l'opposition. Aujourd'hui, la chef de l'opposition néo-démocrate qui disait que c'était un mea culpa insuffisant du fait qu'il était... les actions là, prises pour contrôler la pandémie avaient été insuffisantes et c'est pas excusé
pour ça. C'est parce que ces actions-là, un peu trop radicales, exemple, demander aux policiers d'arrêter les gens pour n'importe quoi, tout ça, sont survenus alors que là, il était critiqué par à peu près tous les médecins de la province pour l'inverse. Là, pour avoir trop laissé aller, trop tardé à agir, de telle sorte que la situation avait monté jusqu'à 4000 cas. Fait que là, tu repères une erreur par une erreur. Donc, il est mal pris avec ça. La France qui commence de son côté un nouveau déconfinement. Donc, on va finir avec ça parce que c'est encourageant.
Oui, on va quand même le mettre en gros guillemets parce que si vous voyez, la France, ça déconfine. Puis pourquoi, Mario, au Québec, on déconfine pas? La France, pour l'instant, se déconfiner, là, c'est arrivé à peu près à ce qu'on a, nous, au Québec, en ce moment, là, en zone rouge. Parce que le premier ministre français, Jean Castex, aujourd'hui, qui détaillait le plan d'assouplissement progressif des mesures. Très progressif, parce qu'au départ, ce qu'on enlève, c'est les contraintes de déplacement en journée. Parce qu'on sait, en France, on ne peut pas se déplacer à plus de 10 km de la maison, il faut un papier.
Fait qu'on n'a pas ça, nous, de toute façon.
On n'a pas ça. Alors, on enlève ce que par exemple, nous, on n'a pas au Québec. Le couvre-feu, qui est à 7 heures, demeure, ça, jusqu'à nouvel ordre. Alors, le couvre-feu, qui est plus tôt qu'au Québec, ça, il n'est pas question de l'enlever pour l'instant. Et ce qu'on envisage, c'est à la mi-mai, la réouverture des commerces non essentiels.
Mais ici, ils sont ouverts.
Ben oui.
Sauf en zone rouge foncée, c'est ça.
On en est là, là. Alors, quand je te parle de déconfinement, c'est très léger déconfinement. Faut dire, ils ont eu 34 000 cas aujourd'hui en France, là. On a stabilisé un peu. On n'est plus en montée, mais on est sur un cap très haut. 283
décès.
L'Allemagne est en montée. D'ailleurs, on est sur le point de serrer la vis beaucoup en Allemagne, avec possiblement un gros confinement qui arriverait. On devrait l'annoncer dans les prochains jours, mais effectivement, eux, ça monte. Mais on dit en France, on est au haut de la vague. Alors, on peut enlever le pire des mesures qui sont vraiment très strictes. Et également pour les écoles, on commencera à faire la rentrée là, le 26 avril dans les écoles maternelles et élémentaires. Le 3 mai pour les collèges, les lycées, mais protocole très strict. En tout cas, on va miser sur ce qu'eux appellent les autotests ou des tests rapides. 64 millions de tests ont été commandés et dans les écoles, on va les utiliser abondamment en espérant pouvoir garder le système de l'éducation en fonction.
Merci.